Merci beaucoup, Léo. Voilà, Midi et des Poussières, on est ravis d'accueillir aujourd'hui deux représentants de l'association Pierre Commune, Stéphane et Adrien. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Pierre Commune, c'est une association qui a pour objectif de répondre collectivement aux problématiques du logement à Florac. On en a déjà parlé sur cette antenne pour annoncer leur campagne de financement participatif qui est en cours. Avant de reparler de ça plus en détail, moi, je voulais revenir un peu sur l'historique de cette association. Est-ce que vous pourriez nous rappeler comment est née Pierre Commune ? À partir de quel constat, en fait ? Qu'est-ce qui a déclenché le besoin de monter une telle association ?
Bah, c'est un groupe de personnes qui se sont heurtées à des difficultés de logement, je dirais, ou qui avaient une conscience sur effectivement ces difficultés, même si eux-mêmes n'étaient pas affectés directement. Et donc, on a décidé de se réunir pour se dire, mais quelle est la solution ? Et notamment dans une ville comme Florac, une ville touristique, où y a et une ville rurale où il y a vraiment des caractéristiques très affirmées de cette crise du logement, à savoir beaucoup de logements vacants, beaucoup de logements touristiques loués uniquement l'été, mais qui sont des passoires thermiques et qui ne sont pas exploitables à l'année. Et donc, du coup, il y a pas mal de gens qui sont même au-dessus des minima sociaux, qui sont des salariés qui veulent travailler sur le territoire et qui ne peuvent pas se loger. Et donc, c'était un élément important. Qui nous a fait prendre conscience de il fallait essayer de trouver des solutions, sachant que les autorités publiques travaillent sur les logements sociaux, par exemple, avec l'Auxerre Habitation. La commune essaye aussi, tant bien que mal, de rénover un certain nombre d'îlots comme l'îlot Did. Mais ça prend beaucoup de temps avec le rythme administratif. Donc on s'est dit il faut que les associations, la société civile aussi s'emparent du projet.
Oui, parce que le manque de logement, déjà, c'est pour se loger, mais c'est aussi pour vraiment le développement local, en fait, pour faire vivre une ville. Quand il n'y a pas de logement, les personnes ne peuvent pas venir s'installer. Dans les petites villes rurales où il n'y a pas un renouvellement naturel de la population, il y a un déclin du nombre d'habitants. Donc l'enjeu, il n'est pas seulement pour loger les gens, mais il est aussi pour faire vivre la ville.
Il y a une espèce de dilemme à tous les niveaux, au niveau de l'État, au niveau des collectivités publiques, qui est à la fois ce développement du tourisme qui a été très fort en France. On est la première destination touristique.
La France en général.
Dans le monde, avec près de 100 millions de touristes qui viennent chaque année. Donc c'est énorme. Et du coup, ça a permis notamment pour des plateformes comme Airbnb de se développer. Et la France, c'est le deuxième pays après les États-Unis qui accueille un nombre de logements saisonniers. Et ça rapporte beaucoup d'argent, effectivement, à un certain nombre de propriétaires, à des collectivités publiques. Mais en même temps, quand on fait ça, y a le risque, c'est la désertification, notamment en zone rurale, des centres-bourgs, parce que du coup, c'est des touristes qui passent, mais qui ne restent pas à l'année. Mmh. Donc, il y a un nécessaire arbitrage à faire entre ces deux politiques, la politique du tourisme et la politique du logement. Et et nous, on essaie d'aller dans le sens d'une politique de développement du logement pour redynamiser les centres-bourgs.
Voilà, parce que les commerces et les services publics, les écoles, les crèches, ce n'est pas les touristes qui les font vivre à l'année. Et alors, la situation précisément à Florac, donc on peut citer quelques chiffres. Je les ai trouvés sur le site internet de Pierre Commune. Donc, c'est des chiffres qui datent de 2021 de l'INSEE. Peut-être qu'ils ont évolué depuis, mais je crois que la tendance reste la même. Donc, il y a 30,3% de résidences secondaires à Florac et 8,6% de logements vacants. Donc, ça laisse 61,1% de résidences principales. Est-ce que c'est beaucoup, peu par rapport à la moyenne française ? Est-ce que vous savez, ou est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces chiffres-là ?
Je pense que c'est assez représentatif de villes rurales touristiques. On n'est pas les seuls dans cette situation. Mais je pense qu'en même temps, ces chiffres, je ne sais pas s'ils sont très expressifs, parce que quand on dit 60% de résidences principales, mais il y en a combien qui sont effectivement habités, qui ne sont pas en fait des bâtiments qui sont un peu en déshérence.
Passoires thermiques, comme vous disiez tout à l'heure.
Voilà, qui sont des passoires thermiques. Donc, il faut aussi prendre conscience de ça. Il y a aussi l'aspect qualitatif des différents bâtiments qui n'est pas vraiment révélé par ces chiffres.
Et alors, Pierre Commune, donc on a compris le constat qui a mené à la naissance de cette structure. Mais alors, quelles sont les missions et quels sont les objectifs, Adrien ?
Eh bien, on a pour objectif de créer une foncière solidaire, c'est-à-dire une structure qui possède des propriétés, et ça dans le but de faire du logement à l'année.
Pour acquérir donc des logements ?
Acquérir, où il y a plusieurs modes de, d'acquisition possible, mais on va dire que le but, c'est d'avoir plusieurs logements à terme et pouvoir les louer à l'année, et en particulier dans le centre-bourg, là où il y a le plus besoin et là où il y a sans doute le plus de logements vacants par rapport à la moyenne de la commune.
Et alors, comment vous faites pour vous prospecter, pour trouver, pour mettre la main sur les logements vacants? Comment est-ce que vous faites?
Alors, pour l'instant, déjà, on s'occupe d'un logement. Okay. C'est déjà tout un chantier.
Ouais.
Étant donné que, en fait, on a encore un petit collectif. Et disons que, comment dire, on essaye de tester le collectif et voir comment on va pouvoir développer notre modèle de foncière solidaire à partir de ce premier logement. Ça nous permet déjà de nous organiser.
C'est un peu l'appartement témoin, c'est comme ça que vous l'appelez, je crois.
Voilà, c'est ça.
Et donc l'idée, c'est de, avec cet appartement-là, alors il appartenait à un propriétaire particulier à qui vous êtes en train de le racheter.
Exactement.
Ok. Et donc l'idée, c'est de le réhabiliter, donc de faire un chantier pour le rendre habitable, c'est ça?
Voilà, c'est okay. En cours. Nous, on l'a récupéré en février dernier. Et depuis, on avance. Il y avait déjà des travaux de gros œuvres qui avaient été faits. Et nous, on fait des enduits, des cloisons, on démonte des vieux parquets, on a décroûté des murs. Et souvent, il y a peut-être il y a une partie des chantiers qui se fait sous forme participative, où on fait appel à des bénévoles qui, pour certaines, sont assez récurrentes. Et
vous, d'ailleurs, je me demandais, tous les deux qui êtes là aujourd'hui, vous êtes impliqués à quel titre au sein de l'association Pierre Commune? Vous êtes bénévole ou est-ce qu'il y a des salariés? Comment ça fonctionne?
Alors, effectivement, ça a été un débat, ça, au début de la constitution du collectif, quand il n'était pas encore une personne juridique formalisée. Maintenant, on est devenu une association. Et peut-être qu'à terme, on sera une SIC, on verra quand on sera une foncière.
C'est société d'un... Non.
Une société d'intérêt collectif. Et donc, on a eu un débat sur le fait de dire, est-ce qu'on est vraiment une structure associative ou est-ce qu'on on s'oriente vers une structure entrepreneuriale, sachant qu'il y a beaucoup de questions qui impliquent d'être assez professionnel, hein, dans le bâtiment, en termes de sécurité, même de garantie décennale, en termes de gestion, de modèle économique,
Être habilité aussi à faire certains types de travaux.
Alors habilité, alors ça c'est plutôt, il y a les artisans, etc. Mais il y a des aspects techniques, juridiques qui sont assez complexes et qu'il faut arriver à maîtriser. Et on n'a pas toujours les compétences chez les bénévoles qui se présentent. Donc du coup, on s'est dit, on va accepter aussi bien des bénévoles que des prestataires. On n'est pas dans une logique où on a des salariés à ce stade parce qu'on n'a pas encore les reins assez solides. Et donc, on a plutôt un certain nombre de bénévoles aussi qui sont aussi qui fournissent des prestations. Voilà. Et qui sont aussi membres du CA. Et ce qui fait qu'actuellement, on n'a pas encore le statut d'association d'intérêt général. Mais on va essayer d'évoluer vers ça en ayant plus que une structure où il y aura plus que des bénévoles qui agissent dans une logique totalement désintéressée. Là, on a des prestataires qui sont membres du CA et qui peuvent... Mais par contre, on a une structure de gouvernance de décision qui fait qu'ils n'ont pas le droit de participer aux décisions qui concernent leurs prestations. Donc c'est comme ça qu'on assure une espèce une transparence et qu'on évite les conflits d'intérêts dans la structure. Voilà. Et donc nous, on est... moi, j'interviens à titre bénévole. Je m'occupe des questions juridiques et des questions des relations avec les banques. Et puis j'essaie de donner un coup de main régulièrement sur les chantiers.
Voilà. Et Adrien, toi aussi, tu es aussi bénévole.
Moi, ça m'arrive d'être prestataire pour l'association. Bon, pour l'instant, c'est encore compliqué pour se payer, mais c'est pas l'objectif. En fait, c'était plutôt de comment faire pour dégager suffisamment de temps tout en sans en parallèle avoir du mal à se payer dans la vie quotidienne, quoi. C'est pas dans un objectif de... Comment dire? Sa structure n'a pas pour objectif de se faire de l'argent, quoi. C'est juste que là, il y avait besoin de dégager du temps, notamment sur le chantier. Et à force de faire des centaines d'heures, en fait, on peut pas tout faire bénévolement, quoi.
Bah oui, parce que ça occupe du temps dans la journée et au détriment d'un autre travail, donc ça semble assez logique.
C'est aussi pour ça que les gens sont dans une situation différente, parce qu'il y en a qui ont des revenus par ailleurs qui leur permettent d'être totalement bénévoles et d'autres moins. Donc il y a cette logique-là.
Ça rééquilibre les engagements de chacun.
Exactement.
Et je voulais revenir un peu sur la notion de logement et d'habitation. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, habiter? Parce que là, il ne s'agit pas juste de permettre à des gens d'avoir un toit sur leur tête, c'est aussi, ça va au-delà, non ? Ça permet à des gens de pouvoir s'ancrer sur un territoire. Enfin, comment est-ce que vous percevez cette notion de logement, d'habitation ?
Bah, c'est, je vais peut-être intervenir en premier, mais je vais laisser après à Adrien de voir quelle est sa conception. Nous, on avait effectivement une logique où on s'est dit on veut louer à des personnes qui ont un peu un projet de territoire. Donc, ils veulent, qu'ont vraiment un objectif de vie, de s'installer à l'année et de participer à la vie collective. Alors, on n'en est pas encore au stade où on est en train de mettre en place des critères objectifs de recrutement, parce que la question va se poser, puisqu'il faut d'abord qu'on finisse les travaux.
Oui, des CV de locataires que vous allez étudier pour voir qui.
Mais cette question va se poser et elle va être très délicate. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, quand on fait une levée de fonds et qu'on demande à des gens, donnez-nous de l'argent pour un logement, ils n'ont pas envie qu'ensuite ça soit une magouille entre copains et qu'on file le logement à n'importe qui. Donc, ils veulent qu'il y ait une transparence et des critères objectifs. Donc ça, on va le mettre en place et ça sera transparent sur le site internet de Pierre Commune. Et donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir des gens qui ont vraiment envie de participer à la vie du territoire. Ensuite, il y a cette question de est-ce que dans le cadre de cette foncière solidaire, on ne veut pas aussi revoir le modèle des relations entre les propriétaires qui est bailleur et les locataires. De façon à ce que, comme dans une AMAP maraîchère où les gens qui sont dans une AMAP, ils participent à l'activité agricole du maraîcher, là aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas demander à ce que y ait une condition de partage des valeurs et de participer à un certain nombre d'opérations de maintenance dans les biens qu'on mettra en location. Donc voilà, il y a une réflexion qui est en cours, qui n'est pas encore du tout finalisée, pour justement voir un peu cette notion d'habiter un territoire. Alors, je ne sais pas si tu veux compléter.
Oui, Adrien.
Moi, c'est plus sur à l'échelle du logement en tant que tel. En fait, c'est peut-être on peut dire que se loger, c'est vraiment mettre quelqu'un dans une boîte et récupérer des sous derrière et juste que cette personne puisse avoir un toit sur la tête. Et là, on est plutôt dans une démarche où on essaye au maximum, avec les fonds qu'on a aujourd'hui, d'œuvrer pour avoir du logement assez qualitatif à tous les niveaux, en termes de confort thermique, en termes de ressenti vis-à-vis des matériaux qu'on utilise. Je pense que...
Se sentir bien chez soi.
Oui. Parce qu'on a peut-être pas, tu l'as peut-être pas dit, mais on essaie quand même du 100%, mais d'utiliser pas mal de matériaux biosourcés quand même.
On essaye de tendre au maximum vers une utilisation de matériaux qui ne viennent pas de l'industrialisation ou de la mondialisation. Donc en fait, ça va être des matériaux, c'est pas toujours local. En fait, le biosourcé, c'est... Et local, et faire une rénovation entièrement comme ça, c'est impossible. On est toujours obligé d'utiliser de la quincaillerie, des trucs qui viennent de Syrie. Même les Syries, le bois qu'on récupère, il n'est pas forcément local. En fait, voilà,
on
tend vers ça, mais au maximum, on fait des enduits en chaux chanvre, par exemple. On utilise de la laine de bois, il y a des revêtements, des finitions bois au plafond à certains endroits. Il y a un escalier en bois qui a été fait par un menuisier local avec du bois... a priori local.
Et je voulais avoir votre avis sur ce qui se passe actuellement au pont de Montvert, où en fait, donc c'est une commune de Lozère aussi, pas très loin d'ici, où il y a 600 habitants. Et face à la pénurie de logements, en fait, c'est la mairie qui a lancé la construction de 18 logements sociaux et qui a investi 2 millions d'euros là-dedans. Et donc l'enjeu, c'était de faciliter l'installation de nouveaux habitants et aussi, comme on le disait tout à l'heure, de garantir la pérennité des services publics pour que l'école, la crèche, les commerces restent ouverts. Là, il y a un peu on a l'impression que les valeurs rejoignent celles de Pierre Commune, sauf que c'est à l'initiative de la mairie, du maire, du pont de Montvert. Est-ce que vous suivez ça? Ou est-ce que vous suivez ce qui se passe là-bas? Et est-ce que la mairie de Florac pourrait faire elle-même aussi un tel investissement?
Alors, la mairie... Alors, moi, je suis aussi, pour être transparent, je suis aussi membre de l'équipe municipale, je suis conseiller municipal de Florac. Donc, la mairie, elle a participé effectivement à des initiatives de rénovation immobilière aussi. Mais il faut savoir... Alors, moi, je n'étais pas directement impliqué dans ces projets. Donc, je suis assez périphérique dans ces projets. Mais ce que j'ai constaté en tant que conseiller municipal de base, on va dire, c'est qu'il y a un temps administratif qui est très long. et avec des normes réglementaires importantes et des tarifs qui font qu'on est dans une logique de marché public. Et on sait que quand on est dans une logique de marché public, les prix augmentent de 30% par rapport au prix d'un particulier. Donc voilà, y a des... ça prend un certain temps, ça coûte assez cher, ça demande de l'énergie de la part des équipes municipales. C'est pas toujours évident de l'avoir et sur le long terme. Donc c'est très bien, mais c'est pas forcément suffisant. Donc voilà, il s'agit pas d'essayer de hiérarchiser ou de... C'est vraiment des approches complémentaires et qui sont utiles et il faut que tout le monde s'y mette. Donc voilà, nous on conçoit... Personnellement, moi, je conçois l'action de l'association comme en complément et comme une structure qui va être un peu plus agile, qui va permettre peut-être parfois de faire un peu plus qualitatif parce qu'elle utilise du chantier participatif, elle utilise du recyclage, ce qui est beaucoup plus compliqué pour une collectivité publique. Voilà. Donc, ça nous permet de, voilà, de venir en complément. Et alors ensuite, comment est-ce que ça va être reproductible ? Ça, on va le voir, parce que ce qu'a dit Adrien, c'est on fait un chantier test et on va voir, parce que derrière, il y a toute la question du financement qui n'est pas évidente.
On va en parler maintenant d'ailleurs, le financement. Vous avez lancé une campagne de financement participatif, donc pour permettre à en tout cas, cet appartement témoin-là de voir le jour et de pouvoir être loué. Alors, où vous en êtes ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous voulez nous en dire un mot ? Adrien.
Il n'y a pas 36 solutions.
Il faut sortir le carnet de chèques.
Non, mais c'est... En fait, n'importe quel don, il est toujours le bienvenu. Là, on a mis des dons à partir de 20 euros, mais il y a des gens qui avaient peut-être plus de moyens, qui nous ont déjà donné davantage. En fait, on a un objectif de 70 000 euros, et ce n'est pas uniquement pour financer ce premier logement. En fait, c'est aussi pour structurer la foncière dans le temps, et en imaginant que ce modèle, il puisse prendre davantage de place sur ici à Florac en Lozère, mais ça pourrait prendre ça, c'est une forme de structure qui pourrait se développer dans d'autres centres-bourgs de la même échelle et voilà. Donc on appelle à des dons actuellement, là on en est à 13 000 euros à peu près. On n'aura certainement pas les 70 000 d'ici 10 jours, mais c'est
parce
déjà...
Parce que ça dure jusqu'à la campagne se clôt dans 10 jours.
Elle se clôt le 5 décembre. Voilà, donc vous avez jusqu'au 5 décembre pour pouvoir participer dessus. Après, toute aide, en fait, si... toute aide est bienvenue aussi. On est toujours à la recherche de bénévoles sur le chantier, des gens qui ont soit envie d'apprendre, soit envie de donner un peu de leur temps, soit un peu des deux. Voilà.
Et qu'est-ce que je voulais dire ? Comment est-ce qu'on peut suivre donc, l'avancée et aussi, c'est ce que je trouve très intéressant, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, une fois que le chantier sera terminé, que l'appartement sera prêt à être habité, comment est-ce qu'on peut suivre voilà, tous les débats qu'il y aura, les questions, les critères de à qui ce sera loué ? Comment est-ce qu'on peut aussi se maintenir au courant des grandes questions qui agitent l'association, toutes ces réflexions-là ?
Bah, disons que déjà, en venant rejoindre l'association, c'est un peu le meilleur moyen, hein, puisque on a des. Alors pour le moment, on a des CA réguliers, on va avoir une prochaine assemblée générale, et puis les gens peuvent venir participer au chantier participatif. Donc il faut aller voir sur le site de Pierre Commune, hein, c'est
www.pierrecommune.fr.
Hein.
Pierre Commune, tout attaché au pluriel.
Voilà. Et donc là, en allant sur le site, vous avez déjà un certain nombre d'infos qu'on va enrichir. Si vous êtes adhérent, vous recevez une infolettre ou newsletter régulière qui fait état un peu des derniers développements. Donc voilà, ça c'est un bon moyen de suivre. Sinon, alors ensuite, actuellement, il y a Hello Asso sur lequel on a notre levée de campagne qui aussi donne des informations sur les derniers développements. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Je ne sais pas si vous aviez envie d'ajouter quelque chose. En tout cas, on était ravis de vous entendre et on va suivre le projet de près et vous revenez quand vous voulez pour en reparler parce que c'est très intéressant à suivre et ça raconte aussi beaucoup de choses sur les villes qu'on habite et comment est-ce qu'on veut les habiter. Merci beaucoup.
Merci Raphaël.